17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro des grands témoins. Aujourd'hui, Joadi Chafea, merci d'être présente. Alors, c'est rare de vous avoir parce que vous êtes un véritable globe-trotteur ou globe-trotteuse. Vous sillonnez la planète et vous êtes ambassadrice pour l'Organisation de l'Unité africaine pour la paix, hein, de façon générale. Et vous êtes en même temps une experte internationale auprès de différentes structures. Vous avez fait des études d'architecture, vous êtes docteur en géographie, vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et ambassadrice pour l'Union africaine dans le réseau FarmWise. On va en parler dans un petit moment. Madame Chafea Joadi, vous dites que les femmes sont la moitié du monde, la moitié du ciel, et que il n'est pas normal qu'elles ne soient pas associées de façon plus présente, plus concrète, à tous les organismes, à tous les enjeux qui aujourd'hui, minent la planète, que ce soit le réchauffement climatique, les guerres, ou alors des choses plus intéressantes, disons la construction écologique, le développement durable, la paix, l'UNICEF, etc. Vous dites que les femmes ne sont pas assez présentes, c'est ça?
Tout à fait. Donc bonjour, merci de m'avoir invité. Comme ça, je pourrais parler un peu plus de ce qui m'intéresse et de ce qui me tient à cœur en ce moment. Donc tout à fait, merci de ce profil que vous avez bien défini par rapport à ce que je fais. Il est vrai que je fais plusieurs choses, mais je dis toujours, les gens me disent, pourquoi vous faites des choses différentes? Non, ce n'est pas différent. J'ai toujours été impulsée par la même volonté, c'est de construire quelque chose de bien pour que l'homme soit bien. C'est le bien-être de l'être humain qui m'intéresse. Donc, quel que soit ce que je fais, c'est toujours dans ce sens-là. Et maintenant, je m'intéresse beaucoup, vous avez parlé de la paix et des femmes. En fait, je suis experte genre. Jusqu'à maintenant, j'ai mis en place je travaille, le cœur de mon métier, c'est de mettre en place des programmes, des projets, des politiques publiques. Et l'un de mes objectifs était de travailler sur le gender mainstreaming. En fait, on dit oui, on intègre les femmes dans ce que nous faisons, alors que ce n'est pas vrai. On met un petit filigrane, il faut travailler avec les femmes, mais on ne le fait pas réellement. Et pour reprendre Anne-Marie de Vreux qui parle de la référence masculine, elle te dit toutes les références en fait qu'on fait, même si on met en place des projets, il n'y a pas de femmes. Et Pérez en parle de l'invisibilité des femmes. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de projets que nous mettons en place où on ne prend pas en compte la dimension femme. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce travail de l'OMS qui s'est rendu compte qu'il y avait énormément de diagnostics posés et surtout de médicaments qui sont donnés pour les femmes et pour les hommes respectivement, alors que les femmes ne les supportaient pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a une vision, on met en place des programmes où les femmes ne sont pas prises en compte. Donc, elles sont invisibles. Et notamment, donc, pour revenir à ce que je fais pour l'Union africaine, les femmes dans la paix. Donc, je travaille je suis ambassadrice de la paix pour l'Union africaine dans le réseau FarmWise, qui est un réseau qui fait partie de la commission paix et sécurité. Jusqu'à maintenant, on sait que la guerre et les conflits, c'est une question d'hommes. Mais en fait, qui sont les premières victimes? C'est toujours les femmes. Et donc, la résolution 1325, qui est portée par ce panel, qui est une résolution qui vient, en fait, régler un problème, une injustice qui perdure depuis des siècles, je dirais, quand il y a un conflit, les femmes sont les premières victimes, mais elles ne sont jamais, jamais prises en compte quand il faut faire une médiation, quand il faut négocier une paix, quand il faut revenir sur ce conflit, on les oublie totalement. Et cette résolution 1325 vient pour régler cette injustice, notamment par rapport à remettre les femmes dans une position de négociatrice et de médiatrice, mais pire encore, les femmes sont les premières victimes. Elles sont donc, c'est presque des victimes collatérales. C'est des dégâts collatéraux. Et qui dit dégâts collatéraux dit que c'est un mal nécessaire. puisque c'est un mal nécessaire, leurs peines, leurs souffrances ne sont jamais même pas reconnues. Donc non seulement elles sont complètement out de la médiation et de la négociation, mais en plus leur mal n'est pas concerné puisque c'est des dommages collatéraux. Et cette résolution 1325 depuis 2000 existe pour dire il faut en finir. Les femmes peuvent être faire partie de négociations et de la réconciliation. Donc être dans le maintien et la reconstruction de la paix. C'est un peu ma nouvelle mission.
Vous avez parlé d'invisibilité. Ça doit vous faire plaisir. On est à quelques semaines des Jeux Olympiques et pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques. Ont repris en 1896 avec Pierre de Coubertin. Aujourd'hui, Paris 2024, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a 11 000 athlètes à peu près. Il y a 5 500 femmes et 5 500 hommes. Ça doit vous faire plaisir, ça. Ça, c'est la meilleure des visibilités, quand même. Le sport, c'est au niveau monde, le monde entier va regarder une parité absolue dans mon sport, donc ça va vous faire plaisir, ça, non ?
Oui, ça me fait plaisir, bien sûr, parce qu'il y a une parité, mais il faut quand même rester un peu vigilant, parce que est-ce que c'est une parité durable ou non ? On a vu dans les années, par exemple, 2014-2016, on avait cette parité au niveau des listes électorales, au niveau des présidentielles. Allons voir maintenant cette parité où elle en est. Elle n'existe presque plus. Donc, oui, si ça continue, c'est bien, mais je me dis quand le nombre s'impose de lui-même parce que les femmes sont constituent la moitié de l'humanité. Plus encore, elles constituent la moitié des étudiants, la moitié des diplômés, la moitié des personnes actives. Mais est-ce qu'elles constituent aussi la moitié des décisionnaires ?
On va revenir sur la décision et sur la gouvernance. Mais vous pointez du doigt quelque chose de fondamental. Qui est que lorsque les femmes acquièrent un droit, et lorsqu'il y a une crise politique ou une crise économique, par exemple un chômage important, etc., on revient sur la place des femmes, on dit les femmes rentrent à la maison, on va privilégier plutôt les hommes pour l'emploi, etc. Donc, vous pointez du doigt la réversibilité du droit des femmes. Vous l'avez touché du doigt, cette réversibilité, dans certains domaines ?
Oui, je parlais des élections, mais on le voit aussi, on le voit en temps de crise. Par exemple, quand il y a quand il y a une famine, quand il y a un problème de chômage important, c'est les femmes qui sont victimes, mais c'est aussi elles qui subissent les premières. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce n'est pas seulement le problème d'être victime, c'est aussi le problème du processus. Il y a ce qu'on appelle, je fais du changement, j'accompagne au changement. Il y a un processus que j'aime bien qui s'appelle le processus hésitant. Dans tout changement, on avance, on recule, on revient, on reprend. Donc je peux dire que c'est presque naturel. Cela ne fait que 60 ans que nous sommes, que les femmes sont dans l'espace public. Donc ce n'est pas beaucoup. L'idée, maintenant, il est vrai que quand il y a un problème, c'est les premières qu'on pointe du doigt. On le voit par exemple aux idéologies islamistes ou extrémistes. C'est toujours les femmes qui sont coupables et c'est sur elles qu'on leur jette la pierre parce que elles sont toujours fautives. Mais je pense que c'est un processus plus ou moins naturel quand on veut aller au changement. Maintenant, il faut juste rester vigilant pour qu'on aille toujours plus loin et qu'on puisse à chaque fois faire perdurer ces avantages, je dirais, ou ces avancées.
Des fois, il y a des marches arrière. On l'a vu aux États-Unis où un ou deux États sont revenus sur le droit sur l'IVG, sur le droit à l'avortement. Donc, c'était un droit acquis, mais on revient en arrière à tel point que la France était un peu tétanisée par cette actualité américaine et a fait rentrer la loi sur l'avortement dans la Constitution. Donc, c'est vrai que même dans un pays démocratique comme les États-Unis, on peut revenir en arrière sur un droit acquis et une liberté acquise.
Fallujah appelle ça le backlash. Ça veut dire en avance et en recul. Il est normal. Les hommes ont eu ce monde pendant des millénaires. Et puis maintenant, depuis 60 ans, je dis que on grignote un peu de leur place et de leurs privilèges. Il est normal quelque part qu'il y ait une résistance. D'ailleurs, cette résistance est tellement importante qu'elle se met en place avec des idéologies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du masculinisme, c'est un de mes sujets aussi sur lequel je fais des recherches, où les hommes ou les jeunes se structurent en, en, en groupe pour contrer les avancées des femmes jusqu'à arriver à l'extrémisme où ils tuent des femmes. Donc, c'est dans le... Je peux dire que c'est un processus presque logique puisque on vient grignoter sur les avantages d'un groupe qui a existé depuis des millénaires. On leur dit non, maintenant il faut partager. Il y a quand même des ajustements à faire. Est-ce que c'est un recul ou est-ce que c'est juste un jeu de pouvoir qui se met en place? Et je pense que ça doit rentrer dans l'éducation où on doit préparer le jeune ou la jeune fille ou le jeune garçon à être deux et à partager.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Notre grand témoin aujourd'hui, Djouadi Chafea, experte internationale et ambassadrice pour l'Union africaine dans le réseau Femmewise. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que quand on met des femmes quelque part, est-ce qu'il y a plus de paix et plus de démocratie? Est-ce que la présence des femmes dans certaines institutions, dans certaines gouvernances, améliore la démocratie et améliore la paix?
Alors, je suis une scientifique, normalement, je dois donner des statistiques et je ne les ai pas, malheureusement. Mais vu mon expérience, je dis toujours, la femme est mère. D'ailleurs, est mère, donc elle se projette dans l'avenir de ses enfants. Donc, elle voit au-delà pour donner cette paix aux enfants. C'est pour ça qu'elle est plus engagée aux enfants. Je vous avoue, moi, j'ai fait quelques opérations de médiation. J'étais dans l'est du Congo, où il y a du Congo RDC, et il y a énormément de conflits. Et la banque arabe voulait mettre en place et financer une centrale électrique. C'était un gros financement, mais sans paix, vous savez qu'on peut pas mettre en place des projets. Je dis toujours, sans paix, on peut pas se développer, et sans développement, on peut pas pérenniser la paix. Donc, il fallait vraiment trouver un terrain paisible pour mettre en place ce projet d'énergie électrique qui est fondamental pour tout développement. Bien, qui c'est que j'ai été voir? Eh bien, on a été voir les mères des rebelles. Et c'est ces mères des rebelles qui ont été négociées un peu avec leurs enfants, leurs fils notamment, pour qu'ils puissent mettre en place une zone de paix, une zone franche où on pouvait mettre en place ce projet. C'est pour ça que je dis quelque part, on est enfant de quelqu'un, de la mère. Et la mère reste quand même quelque chose de sacré et de très respecté. Et elles peuvent être, non seulement elles peuvent être par rapport à leurs enfants, mais elles peuvent être par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle à laquelle j'y crois. L'empathie est importante.
Par exemple, quand on regarde la nature de l'être humain, l'homme, il est souvent paranoïaque. Il a toujours raison, il est toujours dans des affirmations un peu péremptoires, il ne doute jamais, il a toujours raison, alors que la femme, elle est toujours dans le doute, elle remet en question les choses. Il y a une différence quand même dans les comportements et dans la perception. Est-ce que peut-être c'est cette nature à l'origine qui est un peu différente, et on est obligé de le reconnaître, hein, ce ne sont pas des sosies. Est-ce que ceci peut expliquer cela?
Alors, ce n'est pas cette nature. Je pense plutôt c'est une éducation. Ficker appelle ça la discrimination épistémologique. Pourquoi? Parce que on n'écoute pas les femmes. Quand elles ont quelque chose à dire, on a toujours l'impression, on les paternalise, tout ce qu'elles disent, on le prend pas vraiment au sérieux. Ou non, elles sont trop émotionnelles, elles peuvent pas dire vrai, elles sont pas assez instruites. Et pendant longtemps, ça a perduré. Et cela a mis en place ce qu'on appelle tout simplement le syndrome d'imposture. Les femmes ont toujours l'impression qu'elles sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on les a éduquées comme ça. On les a éduquées à être toujours au-dessus de l'homme. C'est pour ça que je pense que c'est plus une éducation qu'une nature. Et il est fondamental pour moi, qui suis en sens de l'éducation, de former de plus en plus les femmes à ce qu'elles soient complètement autonomes et qu'elles soient surtout sûres d'elles et elles, qu'elles aient confiance en elles. Et ça, ce n'est que par le savoir et l'éducation. Et aussi, bien sûr, aussi éduquer l'homme pour dire que la femme est aussi un esprit. C'est une personne à part entière et qu'elle n'a pas de faiblesse, notamment autant de faiblesse que lui. Mais pas des faiblesses dans le sens d'apprendre ou d'éduquer ou de donner ou de s'investir ou de s'engager.
On vit une période extrêmement tourmentée, il y a des conflits, il y a des guerres, et on voit que les femmes sont aussi dans les armées. Elles intègrent l'armée, elles font la guerre, elles la font en Ukraine, elles l'ont fait en Algérie, elles le font en Afrique, elles l'ont fait en Afrique du Sud. Les femmes sont aussi, maintenant, intègrent la guerre. Elles sont dans les troupes, elles conduisent des avions, elles conduisent des tanks, elles sont dans des sous-marins. Donc la femme aussi, elle est dans la guerre.
La femme est dans la guerre, oui. Parce que c'est normal, elle a fait des études, elle a eu accès à des postes, il est normal qu'elle fasse partie de tous les secteurs de la vie. Mais elle peut être aussi dans la paix. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est dans la guerre qu'elle n'est pas humaine. Ce n'est pas parce qu'elle est en poste. Il faut faire la différence aussi, être en poste, avoir une fonction et être humaine et avoir une perspective dans l'humanité et dans la paix. C'est deux choses différentes. Mais il est normal qu'elle soit aussi dans la guerre. Mais est-ce que c'est elle qui décide de la guerre? Ça aussi, c'est une autre question à prendre en compte.
Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que dans beaucoup de cultures, la femme, c'est celle qui va devenir une mère. Elle va accoucher, elle va reproduire les générations. Et elle est mère, elle est épouse. Et elle a du mal à acquérir un statut de femme à part entière. Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? Et pour vous, si ça bloque, à quoi c'est dû?
Est-ce que ça change? Oui, effectivement. Je suis mère, je suis aussi professionnelle, etc. Le problème n'est pas est-ce que ça change ou est-ce que... Le problème, c'est l'assignation au rôle. Est-ce qu'on ne l'assigne qu'au rôle de mère et d'épouse? Ou est-ce qu'elle est femme et elle choisit d'être mère et épouse? C'est ça la différence. Elle est... oui. Elle porte un enfant. Là, les féministes vont être contre moi, mais c'est de ses rôles. On est différents et chacun a son rôle, il est vrai. Mais elle ne doit pas être assignée qu'à ce rôle. Elle doit choisir si elle veut être mère ou non, comme l'homme veut être père ou non. Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas le choix. Une femme n'existait que quand elle procréait, ce qui était totalement injuste pour elle.
Quand elle procréait, souvent, certaines cultures... que lorsqu'elle donnait naissance à un mâle.
Un mâle en plus, voilà. Oui.
Alors, donc c'est là où vous placez un peu votre travail de chercheuse, que vous êtes chercheuse en sciences et l'éducation. Vous pensez que c'est un peu, notamment, vous parlez de l'échec démocratique, vous pensez que toutes ces valeurs, toutes ces objectifs doivent reposer sur un travail sur les valeurs, sur l'esprit critique, sur le comportement, c'est ça?
Exactement. Donc, à l'université, on travaille beaucoup sur les projets européens, notamment sur le Conseil de l'Europe, qui propose un très bon concept qui s'appelle l'éducation démocratique. Et en fait, c'est jusqu'à maintenant, l'éducation, c'est de la formation, elle est technique. L'idée du Conseil de l'Europe et normalement du framework, Democratic Framework, c'est quoi? C'est de rajouter à cette formation technique trois autres volets. Les valeurs et les principes, donc le vivre ensemble, la démocratie, la citoyenneté, etc. La pensée critique, donc parce qu'avec les informations maintenant et tous ces mouvements, les gens sont, les jeunes sont happés, ils sont complètement, ils savent pas d'où donner de la tête avec ces informations. Et il faut qu'ils aient un esprit critique avant de suivre, décortiquer et analyser l'information avant de l'utiliser. Et puis aussi le comportement, les attitudes. Quelle attitude on a? Est-ce qu'on a de l'empathie? Est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on veut faire partie dans l'engagement, etc. Et ça, c'est intéressant d'avoir ces quatre éléments parce que l'éducation n'est pas seulement de la formation. Nous devons aussi former à des gens à être de bons citoyens. Nous devons les former à être de bons humanistes. Nous devons les former à être... à accepter la diversité, la tolérance et surtout accepter le vivre ensemble. Donc, nous sommes en crise, peut-être c'est parce que nous avons oublié d'éduquer nos enfants à devenir de bonnes personnes et de bons citoyens.
Il y a un truc qui est très important chez vous, quand vous dites sur les cultures, vous êtes en même temps en France, vous êtes au Maghreb, en Algérie, vous êtes en Afrique, Et vous reprenez souvent cette image de Dries Raibi qui dit que ses mains sont, sa tête sont en Europe, ses pieds sont en Afrique du Nord et son corps est trimballé en Méditerranée.
Porté
par les vagues. Vous dites que la France est importante parce qu'elle nous permet de faire du lien. Mais souvent, dans tous ces débats-là, revient le colonialisme et le néocolonialisme. Et là, vous vous insurgez contre ça.
Tout à fait. Vous savez, j'ai fait une thèse sur mon doctorat porté sur la banlieue. Et j'ai considéré la banlieue, c'est une thèse en géographie, donc la banlieue comme un territoire de l'altérité. L'altérité, c'est l'autre. Il est différent, pourtant, l'altérité, c'est au-delà de la différence. C'est notre complémentarité aussi. Ça se complète. Et là, vous avez cité Schreiby. Et là, c'est deux positions différentes. Est-ce que je vais être comme Schreiby, happé entre, complètement séparé entre deux cultures, ou est-ce que je vais être plus comme peut-être Amin Malouf qui parle d'identité en symbiose, où on est plusieurs, mais on est dans l'interaction de chacune. Et là, c'est un choix.
Surtout lui, Malouf, parle d'identité meurtrière.
Et puis, mais on est plusieurs, il dit aussi. Ça, c'est important. Ou je reprends peut-être Kundera qui parle de se nourrir de cette diversité pour se transcender lui-même. Et donc, c'est des choix à faire. Et je me dis qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut, je dis toujours, je suis peut-être pas d'ici, mais je suis ici. Et il y a un autre élément qui me paraît fondamental. Nous construisons nos racines, moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai beaucoup bougé, je construis mes racines dans le cœur des autres. Le cœur des autres, c'est qui? C'est ma famille, ma communauté. Et tous ceux qui sont en France ont construit leurs racines dans leur cœur et dans leur famille et dans leur communauté. Donc, nous sommes tous des gens d'ailleurs qui avons construit, planté ici. Et si nous avons planté, ça veut dire que nous avons des racines. Donc pour moi, le problème entre ici et l'autre et ailleurs n'existe pas. Le problème qui se décline en quoi? Se décline en, je pense, il y a de la manipulation pour toujours mettre à mal ce vivre ensemble.
Et moi, ce que je décèle, en tout cas dans vos phrases, c'est que vous dénoncez le déterminisme, quoi, quelque part.
Ce n'est pas que je dénonce le déterminisme, puisque j'y crois. Alors, je suis géographe. Pour moi, tout environnement détermine ce que nous devons devenir, notre futur. Et si ça détermine notre futur, je travaille pour construire cet environnement qui va nous déterminer. C'est ça ma fonction première. Et l'idée, c'est de ne pas être pour ou contre le déterminisme, mais de rentrer, parce que c'est une réalité ce déterminisme, mais de faire en sorte que ce déterminisme soit positif.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Dernière ligne droite dans ce grand témoin avec Djouadi Chafera, chercheuse en sciences de l'éducation et surtout ambassadrice pour l'Union africaine dans le réseau FemmeWise, qui est sous l'apanage de la construction de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Donc c'est la résolution 1325 en 2000, donc il y a près maintenant d'un quart de siècle, et cette résolution promeut la présence des femmes dans la construction de la paix. C'est ça. Et donc, depuis un quart de siècle, les choses bougent, avancent. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est comme toute résolution, ça a peine à faire. Mais je dis toujours, c'est intéressant d'avoir des résolutions, comme c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place?
Jusqu'à maintenant, pas trop.
Des déclarations, des résolutions sans moyens, c'est.
Alors, ce qui est intéressant dans cette résolution.
Excusez-moi, oui. Est-ce qu'elle est contraignante d'abord?
Oui, parce que les pays ont signé, donc normalement c'est contraignant.
Ils ont signé et ratifié?
Et ratifié, oui, bien sûr. Donc normalement c'est contraignant. Donc déjà l'idée est acquise. Ce qui est déjà intéressant, je me dis, après ça prend du temps, comme toute chose, mais c'est acquis. Et ça a été ratifié. Ce qui est intéressant aussi dans cette résolution, c'est que ça a donné naissance à d'autres résolutions, notamment la résolution, bon, je ne me rappelle pas de tous les noms des résolutions, mais il y a une résolution qui stipule que les femmes doivent être protégées pendant les conflits. Qu'il est interdit maintenant d'utiliser...
Là, à Gaza, on ne voit pas où elles sont protégées.
Exactement. Par exemple, les femmes le viol comme arme de guerre maintenant, c'est considéré comme
un crime de guerre.
Il y a eu aussi une autre, la 2242, c'est que l'engagement des femmes dans la lutte contre la prévention de la radicalisation et parce qu'elles ont été victimes, ce n'est qu'après que maintenant on les a intégrées dans toute la partie prévention. Donc il y a eu énormément, il y a eu au moins 9 résolutions qui ont suivi cette résolution où les femmes maintenant sont présentes, où elles sont protégées normalement. Bien sûr, en revenant à Gaza, ce n'est pas seulement la seule résolution qui a été violée, mais on voit que c'est tout le cadre du droit international. Donc on est dans un autre cas. Mais parlons des conflits à plus petite échelle, où les femmes, quand même, maintenant, quand il y a une négociation, on demande aux femmes d'être présentes. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de médiatrices, on n'a pas beaucoup de femmes qui ont pris part à ces négociations. Il faut se dire ce qui est intéressant dans une négociation où il y a des femmes. Quand il y a une négociation, de quoi on parle généralement? On parle du pouvoir. C'est des gens qui ont eu le pouvoir qu'il faut qu'ils déposent les armes. Donc, il faut qu'ils déposent les armes. Comment ils vont, dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'ils vont avoir compensation? Des choses comme ça. Mais quand il y a des femmes qui ont été victimes du conflit, elles vont revenir sur le conflit. Elles vont revenir sur les raisons du conflit. Et là, on va avoir une autre perspective qui sera plus juste entre deux antagonistes et des jeux de pouvoir, mais ça va être revenir au cœur du conflit et de la discussion du conflit et comment ne plus avoir ce conflit. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des femmes dans les négociations, parce qu'elles remettent le vrai problème en question. Ce n'est pas un problème de pouvoir, c'est un problème de régler un conflit. Et puis comment, qu'est-ce qu'il va y avoir après le conflit? Et cette vision est intéressante.
Alors, justement, les femmes doivent être intégrées, partie prenante de toutes les gouvernances. Et dans ce réseau FemWise, vous êtes en train de travailler pour essayer de l'installer un peu partout. Et surtout, là, vous avez une mission, c'est de l'installer en Algérie.
Tout à fait. Donc, comme l'Algérie est au Conseil de sécurité et qu'une des conditions, c'est que les femmes soient partie prenante de la construction de la paix, donc cette résolution prévoit qu'il y ait un plan d'action dans chaque pays. Qui dit plan d'action où les femmes vont être parties prenantes pour être formées comme médiatrices, négociatrices, mais aussi qu'elles soient autonomes. Parce que pour travailler sur la paix, je dis toujours, il faut être éduqué. Et donc il faut mettre en place une éducation spécifique. Mais il faut aussi être dans les positions décisionnaires. Donc il faut une certaine gouvernance. Il faut aider les femmes à être dans les élections. Et il y a tout un travail et des actions à mettre en place pour que être dans le maintien et la construction de la paix soit concret et effectif. Parce que si je n'ai pas de position en tant que femme, si je ne suis rien, je ne peux pas imposer que la paix soit construite.
Alors comment s'est accueillie cette initiative par les institutions, par l'autorité algérienne?
Bien, je dirais, parce que c'est intéressant et parce qu'il faut que les pays se fassent... Alors, vous m'avez dit, ça en est où, un quart de siècle après, ça fait beaucoup quand on dit un quart de siècle, ouais. Mais je dirais 24 ans plus exactement. Ouais. Eh bien, il n'y a que 4 pays qui ont ce plan d'action.
On peut les citer ?
Il y a le Maroc, la Tunisie, il y a le Togo et le Madagascar. Qui ont ce plan d'action. Et l'idée, il y a 55 pays en Afrique, il faut que maintenant ils puissent avoir ce plan d'action. Mais l'idée aussi, c'est qu'on puisse avoir des plans d'action un peu partout.
Alors, ça, c'est dû à des lourdeurs sociologiques, culturelles, ou c'est parce que c'est des choix politiques où il y a une volonté peut-être de conserver le statu quo?
Je pense que c'est un processus naturel. Il faut du temps. En fait, avec le zapping et notre notion du temps maintenant où tout doit se faire rapidement, je pense qu'on a besoin de maturation. toute nouvelle idée, toute innovation a besoin d'être de maturer. Et là, c'est aussi le cas de cette résolution.
Est-ce que, par exemple, c'est une idée de donner quelque part plus de liberté aux femmes? Est-ce que dans certains pays, ça peut pas être aussi reçu comme moins de liberté aux hommes?
Alors, ce n'est pas de la liberté, je dirais. C'est du droit. Donc, prendre... Vous savez...
Oui, parce que vous dites toujours, la loi protège.
Oui, et dernier c'est recours. Du droit, ce n'est pas de la liberté. On n'a pas besoin de liberté. La liberté, on peut l'avoir si on a des droits. C'est par rapport au droit. Et ce n'est pas parce que je prends du droit...
C'est le droit qui définit la liberté.
Exactement. Ce n'est pas parce que je prends du droit que l'autre prend du droit. Et ça, c'est le gagnant-gagnant. Et je pense que quand on fait du développement, on est dans le gagnant-gagnant.
Et donc, vous dites toujours... une des choses très très importantes pour faire accélérer et disons pour que les choses avancent, c'est de construire des cadres où les gens peuvent se rencontrer. Donc la rencontre pour vous, le brassage, l'échange, le dialogue, les passerelles, c'est fondamental.
Oui, pour reprendre Amin Malouf, l'histoire est écrite par des routes et non des racines. C'est les routes qui font que les gens communiquent, c'est les routes qui font que les gens se rencontrent, c'est les routes qui font que les gens se nourrissent les uns des autres.
Donc c'est un petit peu, c'est là on, j'ai l'impression d'entendre Fernand Braudel qui est de ces routes
tout
méditerranéennes.
À fait.
Ouais. Et quel regard vous posez aujourd'hui sur le monde, sur la société, sur cette espèce de 42 pays sont en guerre sur la planète. On en a dénombré 42. La xénophobie qui n'est même pas rampante, qui est affichée avec la construction de murs, avec des... quel regard vous jetez sur ce monde qui finalement redécouvre, refait la guerre? On pensait à plus jamais ça. Et là, les nouvelles générations sont en train de se poser des questions.
Vous savez, je fais du développement et beaucoup d'évaluation. Et pour moi, peut-être qu'il faut changer de perspective. Pour moi, quand le plus grave, c'est quand on est dans l'impasse. Mais quand on est dans une mauvaise posture ou une mauvaise situation, ce n'est que l'expression d'un processus qui n'était pas bon. Peut-être que nos politiques... Alors, c'est pour ça que je dis changeant de perspective. Nos politiques n'étaient pas bonnes jusqu'à maintenant. Et si on est en crise, c'est l'expression de cette mauvaise politique. Donc, la crise est salvatrice. Et peut-être que cela, il faut se poser et réfléchir. On a mal fait. Et tout ce que vous venez de décrire n'est que l'expression de mauvais choix. Si nous sommes assez intelligents, et je pense que l'humanité a beaucoup à donner, nous allons nous asseoir, et il y a toujours des gens de bonne volonté qui vont essayer de réfléchir à l'après.
Il n'y a pas que de mauvais choix, et c'est surtout un problème de domination. Si aujourd'hui, ce qu'on appelle les pays émergents ou le Sud global se révolte de cette façon, on voit par exemple la France qui est expulsée d'Afrique, on voit tout un tas des BRICS, etc. C'est parce que il y a eu une tradition violente de domination et d'oppression. Donc il y a un besoin aussi d'équité, de réciprocité, de partenariat, d'égalité dans les gouvernances. C'est aussi ça qui
est une bonne chose. Parce qu'il y a un siècle, pour le Hug de Berlin, en 1882, on a saucissonné le monde pour quelques personnes, quelques puissances ont saucissonné le monde pour le conquérir. Et là, un siècle après, ben, toutes ces non-puissances ou ces pays émergents sont en train de dire non, je reviens du Mali. Et franchement, les Maliens, c'est vrai que je ne sais pas où ça va aller. Mais quelque part, ils sont contents parce que c'est comme s'ils sont indépendants. Alors, on se pose la question. Peut-être qu'ils amènent.
Ils étaient indépendants, mais pas encore souverains. Il y a ce mot de souveraineté qui revient en permanence.
Et je l'ai senti parce que je suis partie en me disant je ne sais pas ce que ça va devenir. Ils vont droit dans ton mur. Mais il y a quelque chose de positif. Ils ont ce sentiment d'indépendance que je n'ai pas vu depuis longtemps chez eux.
Et donc, on va conclure par ce mot, hein, parce que vous avez un mot que vous adorez quand vous faites la promotion des femmes qui doivent être intégrées, partie prenante de tout. Vous dites qu'elles doivent être agentes de leur destin.
Exactement, j'adore ce mot parce que pas actrice, mais agent. Actrice, c'est un rôle qu'on nous a assigné. Agentive.
On retiendra ce mot. Joadi Chaffer, merci mille fois d'être venu.
Merci
je pense
à vous.
On a envie de vous écouter, de vous entendre encore pendant des heures et des heures. On aura l'occasion de se retrouver. Merci. Je rappelle que vous êtes ambassadrice pour l'Union africaine dans le réseau Femmes Wise, sous l'apanage de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine, et que vous travaillez pour la présence des femmes à parité égale dans toutes les structures de gouvernance et de pouvoir et de décision, et que finalement, ça veut dire que quelque part, les choses avancent et que le monde est, est en ébullition, et vous êtes une de ces actrices. Bonne route.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt.
Au revoir.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.